Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefèvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.
Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins, voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements sous toutes leurs formes. Alors vous voulez investir malin, ça va de soi, mais vous souhaitez également trouver des biens qui sont un peu moins chers afin de réaliser une sorte de bonne affaire. Alors certes, le marché dicte la valeur des biens immobiliers, alors comment faire par exemple pour trouver un bien avec une réduction de plus de 10%? Ça fait rêver beaucoup de monde. Alors sachez que cela est possible lorsque vous investissez dans un bien immobilier sans pour autant en acquérir la pleine propriété. Vous ne faites l'acquisition que de la nue propriété. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de démembrement de propriété, avec des termes un peu barbares comme usus, fructus et abusus.
Alors, pour nous apporter un éclairage sur ce mécanisme, nous avons le plaisir d'accueillir Maître Christian Godard, notaire à Clé-Souilly et membre de la commission des statistiques de l'immobilier des notaires du Grand Paris, je l'ai dit. Christian Godard, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant toute chose, pouvez-vous nous éclairer un peu sur ce mécanisme de démembrement de propriété avec sa décomposition selon les trois composantes du droit de propriété? Mais attention, faites simple.
Oui, bonjour, merci à vous. Alors effectivement, usus, fructus, abusus, on peut faire peut-être plus simple pour que tout le monde puisse bien comprendre. Le droit de propriété, en fait, est susceptible d'être divisé en deux parties, principalement, d'accord? Donc la jouissance du bien, c'est la possibilité d'habiter, voire de louer, d'avoir les revenus. Et ça s'applique à l'immobilier, bien évidemment, mais également toute autre sorte de droit. Et si ce sont des produits financiers, eh bien ce sont les intérêts qu'a l'usufruitier et le nu propriétaire conservant le capital. Voilà. Si je donne un exemple, je donne un appartement à un enfant en me réservant l'usufruit. L'enfant est propriétaire du bien, oui, mais je conserve le droit d'habiter et de louer l'appartement ma vie durant.
Très bien.
Voilà le principe du démembrement.
D'accord. Alors, souvent, ce mécanisme, il est utilisé justement, comme dans l'exemple que vous citiez, dans les familles, pour une donation ou une succession, car je crois qu'il permet de réduire un peu les coûts fiscaux.
Alors effectivement, c'est ici le démembrement, je dirais, le plus classique en matière de donation-succession. Qui dit en fait division du droit de propriété, dit valorisation séparée de ces deux droits, de l'usufruit et de la nue propriété. Et cela se fait selon un barème fiscal qui dépend évidemment de l'âge de l'usufruitier et du nu propriétaire. Si je donne un exemple, à 62 ans, l'usufruit vaut 40% et la nue propriété 60%. À 72 ans, l'usufruit vaut 30% et la nue propriété 70 ans et ainsi de suite. Et
ça, c'est basé sur des statistiques.
C'est un barème fiscal, qui est officiel. Hein, voilà. Ainsi, si vous donnez la nue propriété d'un bien à 62 ans, vous ne transmettrez le bien que pour 60% de sa valeur. D'accord ?
D'accord.
Ce qui va bien évidemment réduire la fiscalité quand vous donnez, puisque vous allez donner un bien de 100 à 60. D'accord ?
Exactement.
Et c'est la même chose. Hein. Par rapport au barème que vous donnez, plus on donne tôt, c'est-à-dire plus on rentre dans ce mécanisme tôt, et plus c'est avantageux.
Exactement. Exactement. Et c'est la même chose d'ailleurs en matière successorale, cette histoire de démembrement. Si au décès le conjoint a 72 ans et qu'il garde l'usufruit, la nue propriété qui sera transmise aux enfants, ça sera la même chose, ça sera 60%. Donc ce que vous disiez, c'est très important parce qu'aujourd'hui, effectivement, sachant que chaque enfant a un abattement de 100 000 euros sur la tête de chacun de ses parents, ça peut aller très vite quand on voit le prix de certains biens ou des patrimoines aujourd'hui. Et donc, on peut avoir intérêt à anticiper, à organiser la transmission de son patrimoine. Et on joue effectivement sur le démembrement de propriété pour optimiser les choses. Voilà. Alors, savoir quand même qu'à côté du barème fiscal, parce qu'on en parle uniquement de donation-succession, il y a également ce qu'on appelle l'usufruit économique. Là, qui va prendre des critères beaucoup plus complexes et notamment des critères de rentabilité. Et c'est beaucoup plus favorable pour l'usufruit dans ce cadre de valorisation-là, mais ce n'est pas applicable en matière de droit de donation et de succession.
D'accord. Très bien. Alors, on entend parler aussi de notion de démembrement temporaire. Comment cela fonctionne-t-il?
Alors, ce n'est pas compliqué. Donc, l'usufruit, j'ai dit tout à l'heure, c'était l'usage.
Oui.
Eh bien, cet usufruit peut être viager, c'est-à-dire qu'il s'éteindra au décès de l'usufruitier, mais il peut également être temporaire. On peut faire un usufruit temporaire pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. L'exemple typique, c'est par exemple des parents, ou plusieurs enfants d'ailleurs, ils sont plutôt lourdement fiscalisés, ils ont un bien qu'à la location, et ben pourquoi pas donner l'usufruit pendant 10 ans à un enfant qui fait médecine, par exemple, de ce bien, ce qui lui fera un revenu. comme il a peu de revenus, il sera peu fiscalisé. Et les parents, s'ils étaient aux tranches maximum, eux, évidemment, n'ayant plus les revenus, ne sont pas fiscalisés à ce niveau-là. Et en plus, autre avantage, c'est que ça leur permet d'échapper à l'IFI, puisque dans cette hypothèse-là...
Voilà.
Donc, usufruit temporaire, ça peut être très utile également.
Hein. Et tout ça, ça se concrétise par un acte notarié ou ça peut se faire sous sein privé ou...
Le démembrement de propriété, alors sur des biens immobiliers...
Démembrement temporaire,
Pour le temporaire, oui, de la même manière que pour un démembrement classique. De toute façon, à partir du moment où vous touchez l'immobilier, il faut un acte qui soit publié au bureau des hypothèques, et donc, effectivement, ça sera notarié.
D'accord.
Alors, il y a aussi des sociétés qui proposent de réaliser donc, des investissements immobiliers en démembrement temporaire. Parce que là, ce qui nous intéresse, justement, c'est investir malin. Donc, il y a des sociétés qui proposent ce type de mécanisme directement sur des biens à la vente.
Effectivement. Alors là, on rentre dans une autre dimension. On n'est plus dans le démembrement classique. On rentre plus, effectivement, dans la gestion de patrimoine, dans des perspectives d'investissement et autres. On va parler ici, effectivement, de vente de biens démembrés comme on pourrait quasiment parler de produits financiers, même si faut faire attention, ne jamais considérer l'immobilier comme un produit financier, c'est jamais le cas, même au travers de SCPI d'ailleurs. On est proche en fait ici de la vente en viager, hein, mais il n'y a pas de rente.
D'accord.
Voilà, c'est-à-dire qu'on achète la valeur de la nue propriété, l'usufruitier il va continuer à rester chez lui, et grâce à l'argent qu'il aura, lui, ça lui permettra de mieux vivre. Celui qui achète la nue propriété, il n'aura pas de revenus, mais par contre, à l'extinction de l'usufruit, il deviendra pleinement propriétaire, et en fait, son gain est là.
D'accord. Très bien. Alors, si vous ne percevez pas de loyer, est-ce qu'il est possible d'avoir un prêt bancaire pour l'acquisition de ce bien?
Alors ça, c'est tout le sujet. Ça, c'est tout le sujet, parce que...
On dirait que ça va être non.
Eh ben non, je ne serais pas aussi catégorique. Enfin, vous savez aussi bien que moi que l'argent, c'est le nerf de la guerre et que le banquier qui vous prête, il veut bien vous prêter, mais il faut qu'il ait des assurances sur le remboursement qu'il va avoir. Et que si jamais les choses ne tournent pas tout à fait comme c'était prévu, qu'il puisse effectivement se retourner sur le bien. Obtenir un financement, oui, c'est possible. Toute la difficulté, c'est que la garantie qui va pouvoir être donnée par celui qui emprunte ne va pouvoir être donnée que sur la nue propriété. Or, on ne peut pas poursuivre la vente judiciaire du bien si il y a un usufruitier. Alors, ça voudrait dire qu'il faudrait obtenir la caution hypothécaire de l'usufruitier, mais vous vous doutez bien qu'il ne va pas être d'accord de se porter garant pour le nu propriétaire qui lui achète. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet. Alors, je ne dis pas que c'est non systématiquement pour les banques, mais je pense que dans ce cadre-là, la banque va plutôt essayer de demander une autre garantie, voire le nantissement d'une assurance vie, voire quelque chose comme ça qui permette d'avoir une autre garantie que le bien lui-même. Voilà. Mais c'est forcément donc un petit peu compliqué, ce qui veut dire également que c'est principalement quand même réservé à des gens qui ont un patrimoine déjà substantiel.
Les moyens de payer en cash.
Si vous arrivez, vous démarrez dans la vie, puis vous allez voir votre banquier en disant « je vais acheter la nue propriété d'un bien pour constituer un patrimoine pour plus tard », il va dire « ouais, vous êtes bien gentil, mais qu'est-ce que vous me donnez en garantie ?» Et là, c'est un petit peu compliqué, parce que si le banquier se retrouve avec que de la nue propriété, on a vu qu'il n'y avait pas de revenus, qu'il n'y avait rien du tout, donc c'est quand même compliqué.
Alors, que se passe-t-il à la fin du période de démembrement, justement? On a parlé de démembrement temporaire, donc si on se projette, un investisseur achète un bien, donc lui, il va payer effectivement la partie nue propriété, donc avec un fort abattement finalement, puisque ça va être entre 60% et peut-être un peu plus, ça dépendra du démembrement en question. Le bien est loué, puisque du coup c'est un bailleur qui s'occupe de louer ce bien, donc le bien est occupé. Que se passe-t-il justement à la fin du démembrement, si la personne qui avait la nue propriété veut récupérer la pleine propriété et donc également l'usufruit du bien?
Alors, je dirais qu'à la fin de la période de démembrement, c'est relativement simple. L'usufruit s'éteignant, le nu propriétaire devient pleinement propriétaire. D'accord ? S'il s'agit d'un usufruit temporaire, c'est la même chose, mais au terme convenu. D'accord ? Dans cette hypothèse, il peut être contractuellement d'ailleurs prévu que l'usufruitier puisse continuer, par exemple, à rester en place moyennant des conditions particulières. On peut toujours aménager un petit peu ces sorties de démembrement. Maintenant, bien évidemment, si l'usufruitier qui, lui, avait l'usage, qui pouvait habiter mais également louer, s'il a souscrit un bail, lorsque l'usufruit s'éteint, le nu propriétaire devenant pleinement propriétaire se retrouve avec un locataire. Et donc, pour moi, ici, ce sont tout simplement la législation en matière de baux d'habitation qui s'applique. Et donc, s'il veut pouvoir récupérer le logement, il faudra qu'il délivre congé pour reprise, ou bien si c'est pour vendre ou autre, mais dans les délais, les termes qui sont prévus par la loi.
Par la loi. Ok.
Alors, la plupart de nos auditeurs et auditrices sont des investisseurs. Quel rendement peut-on réellement attendre sur un investissement de ce type ? Est-ce que vous auriez un exemple ?
Alors, un exemple, ça va être très très compliqué. Et en fait, je ne vais pas vous donner de chiffres pour plusieurs raisons. C'est très difficile de répondre à cela parce qu'il y a beaucoup d'éléments en fait qui rentrent en considération. Il ne s'agit pas d'un produit financier, comme je vous le disais tout à l'heure, avec un taux fixe qui permet à l'avance de savoir exactement où on va. Il y a des aléas en fait dans ce type de montage. Il y a un aléa déjà si l'usufruit est viager, puisque ça va dépendre de l'âge, enfin de la date du décès de l'usufruitier. D'accord, donc déjà au niveau de la rentabilité, ça va jouer fortement.
Varier,
oui. Ensuite, il y a un deuxième aléa, c'est celui de la fluctuation du marché de l'immobilier. Parce qu'on a vu que le nu propriétaire devenait pleinement propriétaire à la fin, donc on peut espérer que le bien qu'il a acheté pour 60% de sa valeur, il ait toujours la même valeur au terme, ce qui fait qu'il aura fait un gain, il y aura un gap de 40%, ou même que ça vaille plus.
Oui.
Mais le marché, l'immobilier...
Parfois, il baisse.
Oui. Hein, donc, vous voyez, là encore, donc c'est pour ça que c'est difficile de se projeter dans le temps. Il y a un troisième élément, c'est celui du taux marginal d'imposition de la personne considérée. Parce que ça va changer complètement, en fait, la rentabilité du bien. Et puis, il y en a tout un tas d'autres. Donc, c'est un domaine où l'aléa est très présent. Donc, c'est difficile, dès le départ, de savoir exactement ce que ça va rapporter, où on va. C'est un peu comme le principe du viager, en fait. Il y a toujours quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Et vous allez faire une bonne ou une mauvaise opération. Là, c'est plus limité parce qu'on est sur le démembrement. Je dirais que si vous voulez vraiment savoir où aller, il n'y a que l'usufruit temporaire, en fait, qui permet de le savoir.
Oui, parce qu'on a la date de fin qui est connue.
Voilà. Donc, évidemment, déjà, vous avez quand même... vous pouvez espérer que ça devrait... ça
sera plus simple. Sur les aléas de l'immobilier, ce sont maintenant, les mêmes que le marché classique.
Oui, tout à fait. Ce sont les mêmes que le marché classique. Ça, c'est une évidence. Donc, de toute façon, quand on investit dans ce type de produit, ça peut monter, mais... Les arbres ne montant pas au plafond, et à un moment donné, ça peut descendre.
Ça fait
le yo-yo, il faut vendre à la bonne période. c'est ce que je pourrais dire. Voilà.
Alors, en tant que notaire, est-ce que vous pensez que ce marché et la mise en place de ce mécanisme est assez développé, et comment verriez-vous son évolution ?
Alors, moi, ça fait très longtemps que je m'intéresse un petit peu au sujet, et je me suis toujours demandé pourquoi est-ce qu'en fait on n'était pas allé plus loin dans ce marché du démembrement, qui aujourd'hui, en fait, est réservé, on va dire, à certaines officines. Vous avez des professionnels qui sont spécialisés là-dedans, mais il n'y en a quand même pas 10 000 sur la place. Moi, je me suis toujours dit qu'effectivement, il pourrait très bien y avoir un marché de nue propriété, un marché d'usufruit, et qu'on pourrait très bien avoir... alors, il faudrait qu'il y ait un second marché pour la revente, bien évidemment. Donc, ce qui n'existe pas vraiment, c'est très compliqué. Mais je dis toujours, par exemple, dans une période comme c'est la réflexion qu'on a beaucoup de gens qui investissent dans le locatif. C'est toujours le risque de l'impayé, c'est toujours le risque des dégradations, c'est les risques de vacances, et puis une rentabilité qui est, somme toute, assez... faible dans l'immobilier, c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle on en est où on en est aujourd'hui. Mais on pourrait imaginer en fait qu'on vende un usufruit temporaire, quelqu'un venir professionnellement à Paris, il a besoin d'un logement, et puis les prix sont quand même pas à sa portée, il se dit mince, moi j'aimerais bien quand même vivre correctement, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas envisager un système où il puisse acheter pendant 10 ans l'usufruit viager, il ne paierait que la valeur de cet usufruit viager.
Une location très longue durée.
Ça serait, oui, sauf qu'il n'y aurait pas le loyer, puisqu'il verserait un capital au départ. Il n'y aurait pas de risque locatif pour le propriétaire, pas de risque de vacances, tout le monde sait où il va. Le seul inconvénient, c'est qu'il faudrait que pour cela, d'abord, il faudrait qu'il y ait un marché qui soit véritablement mis en place. Et puis, il faudrait aussi que le législateur, il revoie peut-être un peu sa copie, parce qu'il n'y a pas très longtemps, pour le viager temporaire, il a considéré que c'était donc un loyer qui était perçu à l'avance et donc fiscalisable au même titre que les revenus fonciers. Ce qui n'était pas le cas avant.
Ça change la donne. Très bien. Alors, ce type de mécanisme et d'achat qui s'appuierait dessus sort un peu des sentiers battus. Il peut effrayer ou rebuter peut-être certains investisseurs. Alors, vous, en tant que notaire, est-ce que vous pouvez accompagner et apporter un peu de pédagogie dans ce système auprès des candidats investisseurs ?
Alors là, je dirais, c'est le rôle du notaire. Déjà, on reçoit régulièrement des clients qui viennent nous interroger préalablement leurs opérations, donc ça permet de faire un petit point effectivement sur le mode de fonctionnement de tous ces mécanismes, même si les officines qui vendent ce type de produits ont tous les éléments juridiques et fiscaux à leur donner, mais c'est vrai que d'avoir un conseil extérieur c'est quand même toujours très utile, donc ça fait partie de notre rôle, nous notaires, c'est pas uniquement recevoir l'acte, c'est également que faire bien comprendre au client ce qu'il signe, quels sont ses engagements et quelle sera la sortie également. Donc le rôle du notaire, bien évidemment, il est essentiel à ce niveau-là. Et puis bon, évidemment, il y a la signature de l'acte notarié, puisque la cession d'un bien démembré nécessite, d'un bien immobilier démembré nécessite évidemment un acte notarié qui soit publié au bureau des hypothèques. Le rôle du notaire va intervenir, parce qu'il y a tout un tas de questions qui se posent dans ce type de montage, il y a le problème de la fiscalité. Le problème de la plus-value à la sortie, celui des revenus fonciers, de la CSG, de l'IFI. Vous avez également tout ce qui concerne les charges du bien immobilier. Qui va payer les impôts, taxes foncières, c'est du fruitier. Les travaux, grosses réparations, travaux d'entretien. Mais également les conditions d'exécution du contrat, pendant la durée du contrat, mais également sa sortie. Donc il faut vraiment voir le montage dans son aspect général. Voilà.
Mais malgré tout, avec toutes ces questions, il y a un cadre type pour y répondre ou c'est vraiment du cas par cas ? C'est-à-dire, par exemple, on prend l'exemple des charges.
Oui.
Là, j'imagine qu'il doit y avoir quand même des usages.
Alors, c'est pas des usages, c'est réglementé.
C'est réglementé, voilà.
C'est le même principe que entre locataire et propriétaire.
Oui, d'accord.
En réalité, puisque l'usufruitier va payer les charges d'entretien, et le nu propriétaire, lui, il doit répondre aux grosses réparations. C'est principalement le clos et le couvert.
D'accord.
Très bien. Alors maintenant, passons à la question du mois qui nous est posée par Kevin de Saint-Cloud. Que se passe-t-il à la fin d'un démembrement temporaire si celui-ci est occupé par un locataire et que le propriétaire veut récupérer le bien en question ?
Alors, j'ai un peu anticipé là-dessus tout à l'heure.
Tout à fait. Ouais.
J'ai un peu anticipé tout à l'heure. Donc effectivement, à l'issue de l'usufruit s'étend, on a vu, le nu propriétaire redevient pleinement propriétaire. Et donc, évidemment, il hérite de ce qu'il y avait, en ce y compris le locataire éventuel qui a été mis dans les lieux. Et on ne peut pas, l'usufruitier ne peut pas faire un bail locatif en précisant qu'il tombera du jour où l'usufruit s'éteindra. Ça me paraîtrait un petit peu compliqué. Il serait dans une situation un petit peu fragile, ou alors il ferait vraiment très attention à la santé de l'usufruitier pour que ça tienne jusqu'au bout.
Voilà. Eh bien, merci, maître Christian Godard. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes notaire à Clé-Souilly et membre de la Chambre de Commission des Statistiques de l'Immobilier des Notaires du Grand Paris.
Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefèvre, cofondateurs du site construiresaretraite.com.